Bonsoir. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'Union européenne et l'Union africaine condamnent fermement les attaques contre l'État congolais par des éléments armés. Dans un communiqué publié hier, l'Union européenne appelle tous les pays de la région à coopérer activement avec les autorités congolaises pour démobiliser le groupe M23 et tous les autres groupes armés. Comment analyser les réactions de l'Union européenne et l'Union africaine? Nous recevons dans cette émission Joseph Kongolo, analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Kabamba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Docteur Emmanuel Kabongo, analyste politique. Monsieur Kabongo, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Guillaume de Mahagui en province orientale. Combien de fois allons-nous écouter les réactions de la communauté internationale, notamment des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Union africaine, alors que le nœud du problème est connu devant cette comédie qui n'a que trop duré? Pierre Kankia de Lubumbashi au Katanga, l'Union européenne s'est seulement condamnée et non pas agir. Merci de votre attention et bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'Union européenne et l'Union africaine condamnent fermement l'action des éléments armés impliqués dans les attaques contre l'État congolais. Dans un communiqué rendu public hier lundi au Luxembourg, l'Union européenne appelle tous les pays de la région à coopérer activement avec les autorités congolaises en vue de démobiliser le groupe M23 et tous les autres groupes armés. L'Union africaine, elle, a exprimé dans un communiqué de presse son plein appui aux efforts du gouvernement congolais visant à restaurer intégralement l'autorité de l'État. Michel Kifindangoy.
À l'issue d'une réunion jeudi à Addis Abeba, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exprimé sa grave préoccupation face à l'impact humanitaire des combats actuels dans l'est de la RDC. Le Conseil exprime en particulier son indignation face à la violation continue dirigée contre les femmes dans cette partie du pays. Pour l'Union africaine, les responsables des M23 seront tenus responsables de leurs actes. L'Union africaine exhorte donc la population et les acteurs politiques congolais à faire preuve de plus de responsabilité et de conjuguer leurs efforts afin de faciliter la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans les localités du Nord Kivu affectées par les combats actuels. L'Union européenne affirme pour sa part avoir suivi avec préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Au cours d'une réunion lundi à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont exprimé leurs inquiétudes sur les récentes informations faisant état d'un soutien extérieur au MITI en contravention avec le régime des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne appelle tous les acteurs, y compris les groupes armés, à tout mettre en œuvre pour protéger les populations et permettre l'accès de l'aide humanitaire. Elle encourage également la MONUSCO à poursuivre les efforts de stabilisation, en particulier en ce qui concerne la protection des populations civiles.
Merci Michel Kifindangoy. Notez que entre-temps sur terrain au Nord Kivu, on continue à enregistrer des désertions des rangs de l'armée et de la police. Le colonel Ibrahim Rwagati, commissaire supérieur qui commandait la police d'investigation criminelle à Goma, a quitté la ville dans la nuit de lundi à ce mardi avec 3 hommes de sa garde personnelle. D'après des sources de la police, il a pris la route de Rutshuru vers minuit en abandonnant une jeep de la police ainsi que des armes à Biaï à la sortie nord de Goma. Au moins 7 autres officiers supérieurs et 6 capitaines FRDC sont eux aussi partis dans la même nuit. Parmi eux, le colonel Alexis Kassanzou, qui était médecin au sein des FRDC, le lieutenant-colonel Kagourou Théophile du 808e régiment de Béni, ainsi que le major Routebeka du 807e régiment de Boutembo. Tous auraient rejoint le M23. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Comment vous analysez les réactions de l'Union africaine et de l'Union européenne?
Bien, merci pour la question et merci pour m'avoir associé à ce débat. Je crois que la réaction de l'Union africaine et de l'Union européenne ce sont des procédures traditionnelles. Dans des situations pareilles, une organisation comme l'Union européenne ou l'Union africaine exprime tout simplement son inquiétude et trace en quelque sorte une voie schématique pour pouvoir résoudre la solution. La guerre ne sévit pas dans l'espace de l'Union africaine et de l'Union européenne, donc c'est normal que, disons, la procédure tracée par cette Union européenne soit très schématique et peut-être sans prendre en considération les conséquences, n'est-ce pas, collatérales de cette guerre. Mais je considère que l'effort, l'action pour démobiliser les groupes qui opèrent à l'Est relève de la souveraineté de la République, relève du gouvernement central qui doit mettre en branle tous les mécanismes juridiques, diplomatiques, mais aussi, n'est-ce pas, notre arsenal de fer, donc notre armée, pour pouvoir bouter, n'est-ce pas, tous ces groupes, neutraliser tous ces groupes armés qui opèrent à l'Est. Et je crois que le gros travail, n'est-ce pas, reste sur l'armée nationale qui doit devoir, n'est-ce pas, démobiliser une fois pour toutes tous les groupes armés qui opèrent à l'Est. Donc, les réactions de l'Union européenne, de l'Union africaine, ce sont des réactions normales qui entrent dans la ligne diplomatique, n'est-ce pas, de ces organisations, ce qui est tout à fait normal, mais je crois que nous, en tant que Congolais, nous avons le droit d'aller plus loin, n'est-ce pas? Parce que ce sont d'ailleurs des schémas qui ont déjà été utilisés plusieurs fois. La coopération de tous les pays de la sous-région, je crois que c'est ce que le ministre des Affaires étrangères, M. Tshibanda, a fait. Il a fait le tour des pays limitrophes et puis il est rentré, il a saisi, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est le schéma diplomatique.
Traditionnel.
Oui, traditionnel, qui ne peut pas changer la situation sur le terrain aujourd'hui.
Alors, Joseph Kongolo, toutes ces réactions sont-elles, j'allais dire, des coquilles vides, des messages vides de sens?
Mais en fait, si chaque jour, on doit nous appeler à faire la même chose, sans un résultat sur le terrain, donc je comprends que c'est du bruit. C'est du bruit, tout simplement, pour venir embellir, n'est-ce pas, la situation qui se passe. Moi, je crois que l'essentiel de l'action, c'est sur le gouvernement congolais, c'est sur l'armée congolaise qui doit, présentement aujourd'hui, s'organiser, choisir les meilleurs des éléments qu'il faut pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, tous ces groupes qui opèrent à l'Est hors d'état de nuire en ce moment-là. Parce que aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire qu'il faut moderniser l'armée, qu'il faut réformer l'armée. Mais l'armée, on ne la réforme pas en un jour, en deux jours. Et dans l'entretemps, il y a la guerre qui sévit à l'Est. Je crois que c'est le moment de sélectionner les meilleurs éléments de notre armée et de les mettre au front de manière à neutraliser et créer des conditions propices pour pouvoir réorganiser cette armée et la vie de la République continuer.
Il y a un extrait du communiqué de l'Union européenne, Joseph Kongolo, qui dit, je cite, « Au cours d'une réunion lundi au Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont exprimé leurs inquiétudes sur les récentes informations faisant état d'un soutien extérieur aux mutins. Nulle part il n'est clairement fait allusion au Rwanda. C'est pas, est-ce que l'Union africaine et l'Union européenne se placeraient dans l'optique où ce serait une affaire purement congolo-congolaise?
Bon, écoutez, je crois que si l'Union européenne ne fait pas allusion au Rwanda, je crois que toutes les preuves ont été faites par des organisations, n'est-ce pas, de Nations Unies, qui ont prouvé qu'il y a des éléments rwandais, n'est-ce pas, qu'on a retrouvés dans les rangs de M23, c'est-à-dire que la vérité est têtue, que l'Union européenne ne fasse pas allusion à cela, que l'Union européenne délibérément refuse de citer nommément le Rwanda, n'est-ce pas, dans son implication à l'Est, eh ben, je crois que pour nous, je voudrais ici beaucoup plus reposer l'essentiel de l'action sur le gouvernement congolais, sur l'armée. Nous connaissons la vérité et le Conseil de sécurité des Nations Unies connaît la vérité, l'Union européenne connaît la vérité, donc qu'il l'annonce ou pas, nous la connaissons, nous devons, n'est-ce pas, mettre en branle, n'est-ce pas, un mécanisme pour pouvoir mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, tous ces groupes qui opèrent à l'Est.
En même temps, Joseph Kongolo, le Rwanda a formellement démenti le 25 juin, c'est-à-dire hier à l'ONU, les accusations de la RDC selon lesquelles Kigali soutient les rebelles dans l'Est du pays. La ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, parle plutôt, je cite, d'une guerre des mots destinée à faire du Rwanda le bouc émissaire des problèmes de la RDC?
Bah, écoutez, elle fait la diplomatie. C'est le rôle d'un diplomate ou d'une diplomate, comme elle d'ailleurs. Ils ont eu toute une politique.
La RDC n'en fait-elle pas aussi?
Ben justement, c'est ça, c'est
ou
ce que
pas,
je dis.
Ou pas suffisamment.
Le Rwanda a une ligne diplomatique avec des objectifs précis. Or, c'est ce qui nous manque, nous. Nous n'avons pas une ligne diplomatique. Nous ne savons pas notre diplomatie est fondée sur quoi. Quels sont les objectifs majeurs de notre diplomatie? Un pays qui a beaucoup de potentialités, un pays qui a 9 voisins, un pays qui a des potentialités minières et tout ça, nous n'avons pas un fondement capable, n'est-ce pas, d'orienter une diplomatie à la hauteur, n'est-ce pas, de ce que nous représentons sur le plan stratégique. Donc, c'est ça le vide que nous avons. C'est ça le vide. Et je crois que le moment est arrivé pour qu'on puisse mettre en branle, n'est-ce pas, l'ensemble des matières grises de la République pour pouvoir fonder, créer, n'est-ce pas, une politique diplomatique, n'est-ce pas, à la hauteur de nos ambitions aussi. Et c'est ce qui nous manque, malheureusement.
Docteur Emmanuel de Kabongo, vous êtes également analyste politique. Comment vous percevez les réactions de l'Union européenne et de l'Union africaine? Vous venez de suivre Joseph Kongolo.
Oh, mais merci. J'ai bien suivi Monsieur Joseph Kongolo et je remercie pour sa bien intervention. Ce que je voudrais dire ici est que il y a quelques semaines, le groupe de presse Le Potentiel, Télé 7, Radio 7, ainsi que l'Institut de recherche stratégique ICREDES, et puis le Centre d'études politiques et le Centre de recherche en épistémologie des sciences humaines ont organisé à l'Université de Kinshasa un colloque, un séminaire sur les enjeux cachés de la guerre de l'Est. Et 4 arguments ont été fondamentalement, n'est-ce pas, livrés au public de universitaire. À savoir que la guerre de l'Est est d'abord une guerre qui est due aux causes internes. Et la cause interne principale, c'est la malgouvernance de la RDC. Nous savons que depuis près de 20 ans, près de 2 décennies, nous subissons la guerre. Tout le monde sait qu'on ne peut pas faire la guerre si on n'a pas une armée. On a demandé qu'il fallait refaire au Congo une véritable armée, doter cette armée de grands moyens pour qu'elle puisse faire face à la guerre. Ça n'a jamais été fait. Et un des intervenants, à la personne de Arsène Mouaka, disait que oui, cette guerre est devenue une guerre business. On affaiblit l'armée à RDC. Il n'est pas capable de, n'est-ce pas, de faire une guerre. Et ouais, le Rwanda peut s'amuser en instrumentalisant quelques milices et puis entrer chez nous et sortir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, un autre argument a été présenté. Moi, je disais, par exemple, que il est difficile dans un pays où la conscience collective est trop laminée, où elle est presque inexistante, où les gens ne partagent pas la même vision, où les gens n'ont pas la même unité de sens, de constituer, d'avoir une grande armée. Et ça, c'est difficile aujourd'hui de faire une grande armée au Congo, de faire une grande police au Congo, parce que les Congolais, même en tant que peuple, existent de façon très laminée, quoi. Donc, il n'y a pas de vision commune. Nous n'avons aucune compréhension des choses qui nous arrivent. Et quand on est dans une situation où vous avez une conscience politique, une conscience collective très laminée, vous ne pouvez même pas, vous n'êtes pas capable d'imposer des exigences fortes à la classe politique.
Troisième enjeu.
Donc, c'est la thèse qui est tout à fait acceptable, que toute la guerre de l'Est est une guerre qui est financée, faite par les multinationales, qui instrumentalisent quelques pays africains comme le Rwanda, l'Ouganda, sous la houlette des États-Unis d'Amérique, nous l'avons toujours dit. Donc, et puis il disait aussi, il avait raison, que cette guerre de l'Est est une guerre qui démontre l'émergence de nouvelles puissances qui sont l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Et ces puissances ne peuvent vivre qu'en affaiblissant le Congo, qu'en affaiblissant la gouvernance congolaise, l'armée congolaise et tout. Donc l'ensemble de toutes ces problématiques donne à penser que le Congo aujourd'hui est un pays en pleine décadence. On n'a jamais vu un pays comme ça, en plein 20e siècle, incapable d'avoir une armée, incapable d'avoir une véritable politique diplomatique, incapable d'avoir une bonne économie, incapable d'avoir quoi que ce soit. Donc dans cette décadence-là, le Congo est devenu une proie facile, n'importe qui peut entrer et sortir. Et d'ailleurs, les neuf pays qui nous entourent ne cessent jamais d'entrer, parce que même si on parle du Rwanda, mais l'Angola entre dans, il occupe quelques espaces congolais. Tout le monde le sait. Donc, ça fait que quand on nous invite à des émissions comme ça et qu'on entend des communiqués de l'Union européenne, qu'on entend des communiqués de l'Union africaine, on se dit, ben écoute, la blague va durer longtemps. Mais je voudrais dire qu'au-delà de ce communiqué de l'Union européenne, qui est complice dans toute cette histoire de hégémonique, je voudrais dire que pour l'Union africaine, il faut qu'elle se rende compte que s'il continue à jouer à la cécité, à ne pas comprendre que ce qui arrive au Congo, c'est ce qui est arrivé au Soudan, on a balkanisé le Soudan, c'est ce qui arrivera au Congo, on coupera le Congo en morceaux, c'est ce qui arrivera au Nigeria, c'est ce qui arrivera, à l'Algérie, et que la balkanisation, j'appelle moi-même ça la sud-américanisation, est un processus qui fait d'affaiblissement profond de l'Afrique pour que ce pays, ce continent ne puisse pas jouer son rôle, dans le 21e siècle commençant. Et que, alors que tous les autres continents sont en train de se formater en des véritables masses géostratégiques puissantes, comme les États-Unis d'Europe en train de se former sous nos yeux. Les Européens sont en train de faire des États-Unis d'Europe sous nos yeux en mettant en place des institutions supranationales, une armée supranationale, tout ça. Et nous, on nous affaiblit en nous découpant en petits morceaux. Merci. Et les institutions supranationales, comme l'Union africaine, qui devraient jouer un rôle de refus de cette situation, c'est complet dans des communiqués complaisants. Et moi, je dis, c'est dangereux. Merci. Donc, je dis pour moi qu'il est temps que les élites congolaises, et je suis heureux parce que Théophile Obenga, qui a passé une semaine ici au Congo, il est venu et jeudi, il est rentré hier vendredi, il nous a dit que le Congo a le potentiel intellectuel le plus important d'Afrique.
Merci.
Il a le potentiel économique, le potentiel énergétique le plus important, et qu'un tel potentiel ne peut pas être diverti et transformé en des petites histoires.
Emmanuel Tabongo.
Pour les élites congolaises, nous devons prendre les choses en main, dire que ces pays-là, nous pouvons avoir une gouvernance telle qu'elle est, mais nous pouvons, au niveau de l'intelligence, formater de nouvelles solutions.
Merci.
Pour que le pays puisse s'en sortir. Parce que ce qui se passe à l'Est,
merci, Emmanuel.
Au-delà du pire, c'est...
Merci,
c'est...
merci. Merci Emmanuel Tabongo, souffrez que je vous coupe la parole, le temps de la redonner au professeur Bob Kabamba. Je vous retrouve dans un deuxième tour de table. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Docteur Emmanuel Tabongo fustigeait la complicité de la communauté internationale. Entre-temps, il y a deux auditeurs, Luc Bombanga de Kisangani en province orientale, qui dit « L'Union européenne et l'Union africaine doivent cesser de distraire les Congolais car le plan de la balkanisation de la RDC à travers le Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Le peuple doit ouvrir l'œil. Jules de Kinshasa, la décision de l'Union européenne sera la bienvenue, mais fallait-il attendre longtemps avant d'intervenir après des milliers de morts à l'Est? Professeur, doit-on parler de complicité? Est-ce que vous confirmez également cette complicité de la communauté internationale?
Merci à Monsieur Rong et à l'invitation de vos auditeurs de Radio Capi, surtout aussi à l'invitation Radio Capi par rapport à toutes ces émissions que Radio Capi fait pour essayer de sensibiliser et informer de manière impartiale les auditeurs. Et je profite aussi pour saluer mes collègues avec lesquels je vais participer aujourd'hui à cette émission. Donc, en réponse à votre question, c'est qu'il y a deux problèmes que vous avez soulignés et dont les auditeurs aussi ont fait part. Il y a d'abord un problème d'abord au niveau congolais, c'est-à-dire grosso modo que généralement on a une espèce de prétention en pensant que chaque fois il y a toujours un grand complot international sur la RDC. Et ça dure depuis que le Congo existe, hein, donc il faut revenir jusqu'à 1885, depuis que le Congo est Congo. Le Congo a toujours été une espèce de à part au niveau de la communauté internationale avec ses ressources naturelles. Et ça a été pendant la période coloniale, je ne vais pas revenir sur l'histoire, avec aussi la période après l'indépendance, la période de Mobutu, la période de Laurent Désiré Kabila. Et maintenant, à la période de Joseph Kabila. Et donc, ça a toujours été le cas. Mais depuis toujours, mais le Congo a toujours été Congo, sans aucun problème. Et donc, il y a cette dimension de ce complot international qui est là. Et il y a aussi la dimension, quand même, par rapport à chaque fois au niveau des Congolais. Ce n'est jamais la faute des Congolais, c'est toujours la faute des autres et pas la faute des Congolais par rapport aux problèmes qui se posent en RDC. Donc, sur le dernier aspect, il faut bien se rendre compte que lorsque l'on a un mouvement rebelle, qui naît, le M23 qui naît dans les contextes que l'on connaît et dans le contexte que l'on connaît de la région du sud de Kivu, Nord Kivu, province orientale, avec les problèmes au niveau des frontières. Et il est un peu dommage de voir que le Congo n'est pas en mesure de pouvoir arriver à activer tous les mécanismes qui existent au niveau international pour essayer d'avoir quand même une réaction claire et une réaction des autres pays par rapport à ce qui se passe. Quels sont les mécanismes qui existent? Vous devez savoir que le Congo a signé toute une série de conventions et de traités avec beaucoup de pays, et donc je vais en citer de manière progressive les différents traités. Il y a d'abord, dans un premier temps, un traité qui a été signé par les trois pays de la CPGL, c'est un traité qui date de 1988. Ce traité est très clair et qui oblige en fait tous les partenaires de la RDC, donc le Rwanda et le Burundi, à pouvoir ne pas soutenir n'importe quel mouvement rebelle qui mettrait soit la RDC, soit au Rwanda, soit le Burundi, ne peut avoir de soutien de des pays membres. Ce traité est vraiment très, très clair. Et lorsqu'il y a une attaque d'un des pays membres, les autres pays doivent se solidariser et aider l'autre pays à pouvoir résoudre ces problèmes. Ça, c'est une première dimension. Deuxième dimension, il y a la Conférence internationale de la paix et de la sécurité des Grands Lacs qui a mis un grand traité qui a le secrétariat permanent qui est installé à Goma, dont un des objectifs très clairs, c'est de pouvoir arriver à mettre en état de nuire tous ces groupes rebelles, tous ces mouvements rebelles, qu'ils soient rwandais, congolais, ougandais, burundais, etc., qui sévissent à la région, de pouvoir les mettre fin à la présence de ça. Troisième mécanisme qui existe, c'est au niveau de la SADC. Au niveau de la SADC, de manière très claire, au niveau des différents traités qui ont été signés par les RDC ratifiés, de manière très claire, tous les pays de la SADC, en cas d'agression d'un pays membre, les autres pays de la SADC doivent réagir. Quatrième niveau, c'est l'Union africaine, avec la saisine qui a été faite. Cinquième niveau, c'est au niveau de l'ONU. Et donc, tous ces différents niveaux, la RDC, elle est représentée à tous ces différents niveaux. Et donc, la RDC, lorsqu'elle est confrontée à un mouvement rebelle que l'on sait qui est soutenu par le Rwanda, puisque les rapports sont clairs à ce sujet. Et donc, tous ces mécanismes sont là à disposition de la RDC pour pouvoir les activer et avoir une voix au chapitre. Alors, la conséquence, malheureusement, que l'on a de tout ça, c'est qu'on a une réaction timide. Je dois vous dire aussi, lorsque vous citez le communiqué de l'Union européenne, il faut bien savoir que c'est la Belgique, en fait, qui a amené le dossier de l'aide de la RDC au Conseil des ministres des Affaires étrangères pour amener à ce qu'il puisse y avoir une position commune au Conseil. Donc c'est la Belgique qui a été, entre guillemets, le porte-parole du Congo dans ce dossier. Et quand on lit le communiqué, je m'excuse, le communiqué, il est très 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 vague, il est très 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 light, il est même en deçà d'autres communiqués qui ont été publiés, notamment par des organisations internationales comme Human Rights Watch, qui a été très clair avec sur le dossier du M23. La MONUSCO, même si elle l'a pas fait de manière officielle, a quand même confirmé toute une série de choses. Et on peut être étonné que l'Union européenne n'arrive pas à pouvoir donner clairement les positions des uns et des autres. Alors, on y va au niveau de l'Union africaine. C'est pareil aussi au niveau de l'Union africaine. Malheureusement, là, à nouveau, le communiqué, il est très général et il ne va pas à nouveau par le fin fond de choses. Pourquoi cette chose, excusez-moi, pourquoi tout ça pourquoi cette deux réactions? En fait, ce sont des indicateurs très clairs de se dire que le Congo est un État fragile, malheureusement, qui n'arrive encore pas à pouvoir s'assumer et prendre toute une série de mesures sur lesquelles elle peut affirmer et avoir une voix à dire, une voix à faire entendre au niveau international.
Merci. Merci, professeur Joseph Kongolo. Je reviens à vous. Vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Kindu Maniema.
Murani Aruna de Kindu Maniema. Les Congolais doivent savoir que la communauté internationale et les autorités congolaises complices se moquent d'eux. Nous devons voir comment nous prendre en charge et ne pas trop attendre du gouvernement Atata dont le budget ne nous rassure pas pour notre sécurité.
Joseph Kongolo, en fait, cet auditeur pose deux problèmes. Il y a le manque de confiance par rapport à la communauté internationale et aux gouvernants, ainsi que le problème du budget qui est si faible qui laisse planer le doute sur des solutions aux problèmes de sécurité.
Bien, l'intervenant de tout à l'heure a complètement raison.
Il a complètement raison, parce qu'en fait, j'ai suivi le professeur tout à l'heure, il a donné l'aspect protocolaire. Tout ce qu'on a fait, c'est l'aspect protocolaire. On a condamné, il y a violation flagrante, n'est-ce pas, des traités internationaux, bilatéraux, ainsi de suite, et tout ça. Il y a déjà flagrance en ce niveau ici. Je crois que l'essentiel, comme l'auditeur vient de le dire tout à l'heure, c'est d'arriver à organiser la population. Parce que nous dépassons le niveau du gouvernement, le niveau du régime qui semble incorporer en son sein des membres qui sont complices, n'est-ce pas, dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut transférer maintenant l'essentiel d'efforts dans la société, globaliser cette résistance, aller au-delà, n'est-ce pas, des institutions formelles. Vous avez le gouvernement, le Parlement et tout ça. Et le Parlement se plaît même à faire des débats à huis clos pour une question qui intéresse la nation tout entière. Moi, je crois que l'auditeur a dit tout à l'heure qu'il faut organiser maintenant la société, globaliser cette résistance, dépasser le niveau des institutions formelles, et arriver à monter des stratégies pour faire un tournant décisif et rencontrer la détente. Et cela nécessite non seulement une certaine sensibilisation des masses, mais que le gouvernement, le reste des membres qui sont encore fidèles, ceux qui ont encore certaines vertus patriotiques et qui sont dans les structures, de s'organiser fermement de manière à ce que, le décor étant déjà planté, en coulisses, pas en coulisses, mais sur le terrain, que les braves hommes de guerre qui nous reste encore puisse faire l'essentiel pour pouvoir neutraliser. Et je crois que c'est possible, parce que du moment que le gouvernement n'a pas le sens de l'honneur, le sens de la vertu patriotique, je crois qu'il y a lieu de créer une structure de mobilisation, une structure de motivation, des motivateurs qui soient à la hauteur pour motiver les troupes qui sont encore au front. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas baisser les bras pendant que la guerre avance. Je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de rassembler l'essentiel des forces qui nous restent encore, de les mobiliser, de les motiver davantage, et de bouter l'ennemi dehors. En ce moment-là, la transformation de l'armée viendra petit à petit et petit à petit.
Mais cela ne se fera que dans un cadre légal, purement.
Oui, dans un cadre légal, bien sûr, il faut créer des couloirs. C'est pourquoi nous disons de la production institutionnelle. Nous avons le droit, ici, de créer d'autres institutions pour assurer, pour diminuer le vide qu'il y a entre le sommet et la base. Il faut créer de nouvelles institutions intermédiaires de manière à cheminer la décision, à cheminer la réflexion, à cheminer l'essentiel, n'est-ce pas, des informations de la base vers le sommet pour des décisions durables et stables.
Allez-y, terminez, je vous en prie.
Oui, je voulais dire que l'auteur, l'intervenant de tout à l'heure a complètement raison. Le deuxième volet, c'est le budget. Écoutez, il faut dire une chose, la défense est fille de l'économie, est fille des finances. Si vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas droit à la défense. Et la défense est enfant de l'économie, enfant des finances. Nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver à mener sur le terrain des grandes actions, n'est-ce pas, pour neutraliser les troupes qui sévissent à l'Est, sans des moyens. Et je crois que notre économie, notre budget aujourd'hui, doit être repensé en fonction des contingences, en fonction des besoins immédiats, en fonction des besoins de souveraineté.
Christian Mugisho Kanyama, d'Akruz de Bukavu Sud Kivu, le souhait de l'Union européenne pour pouvoir aider la RDC est à saluer. Mais quelles sont les mesures prises jusqu'à maintenant par la RDC si ce ne sont que des accusations vis-à-vis de son voisin, le Rwanda? Le professeur Bob Kabamba l'a également dit, Joseph Kongolo, très brièvement, souvent pour les Congolais, la faute c'est les autres.
Les jérémiades, d'abord, c'est la première chose. Nous voyons comment notre diplomatie est en train de tâtonner, là où, depuis des années, nous savons que le Rwanda est toujours derrière tous ces groupes armés. Des jérémiades, pleurer comme Jérémie, des lamentations du matin au soir. C'est bien beau faire tout ce qu'on a fait. Moi, je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de s'organiser sur le terrain et arriver à neutraliser toutes ces troupes qui sévissent à l'Est. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autre magie. Et nous n'allons pas attendre qu'on puisse réformer l'armée. L'armée ne se reforme pas dans deux jours. Ne se refont pas dans un mois ou dans deux mois. Je crois qu'aujourd'hui, c'est de mobiliser l'essentiel de nos forces qui sont encore loyaux et qui ont en eux des vertus patriotiques pour pouvoir bouter l'ennemi dehors et créer des conditions propices pour pouvoir réformer cette armée.
Merci. Voilà. Docteur Emmanuel Kabongo, il y a cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga pour vous.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga, la réaction de l'Union européenne et celle africaine est bonne, n'est pas complète ni suffisante. En effet, nous assistons aujourd'hui à une vague de condamnations de la terre sans impact sur terrain. À quoi servent ces condamnations lorsqu'elles ne contribuent pas à renforcer les stratégies et moyens pour anéantir ces forces négatives? Nous n'avons pas besoin des gens qui nous aident à pleurer, mais bien de ceux qui nous aident à combattre.
Réaction, docteur Emmanuel Cabot.
Oui, je voudrais dire à ce que vient de dire Joseph Nkongolo que la défense est justement la fille de l'économie. C'est quand on a une bonne économie qu'on peut faire une bonne défense. Et en même temps, n'est-ce pas, l'économie est en même temps la fille de la défense. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise économie au Congo, des mauvaises économies au Congo parce que nous ne sommes pas capables de protéger les matières premières comme le pétrole et les Rwandais, les Angolais se sont accaparés avec le pétrole du plateau continental parce que nous sommes incapables de protéger ces ressources. Nous ne sommes pas capables de protéger des ressources à l'est et toutes ces milices instrumentalisées s'en occupent. Donc il y a là, nous sommes dans une spirale de la pauvreté et comme dit notre frère, mon ami de Kolwezi, vous ne pouvez pas avoir une bonne diplomatie, une diplomatie agissante et efficace si vous n'avez pas une bonne armée. Et aujourd'hui le Congo n'a pas une bonne armée, il ne peut pas avoir une bonne diplomatie. Et tous ces pays qui font des communiqués alambiqués pour se moquer de nous, le font justement parce qu'ils savent que les Congolais ne sont pas capables de défendre leurs terres, de défendre leurs richesses, de défendre leurs eaux et de défendre leurs terrains. Donc il y a là, comme dit notre ami, une véritable problématique de la défense de notre espace vital. Et je pense que nous sommes en train d'aller vers des choses, comme a dit notre frère tout à l'heure, parce qu'après la conférence sur les enjeux cachés de la guerre de l'Est à l'université de Kinshasa, les universitaires et les étudiants se sont mis ensemble pour mettre en place ce qu'on appelle les mouvements civiques congolais, les mouvements civiques nationaux congolais. Donc c'est ce mouvement-là qui est un mouvement de sensibilisation de la population sur la nécessité de défendre l'espace vital qui est un espace divin. Et parce que face à l'impéritie de l'État, face à l'impéritie de l'armée, face à l'incapacité de l'armée à défendre, et on comprend que les populations soient obligées aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, parce que quand cette guerre a commencé, il y a eu des mouvements Maïmaï, ce sont des mouvements, c'est-à-dire des populations locales qui défendent leur espace vital. Donc je crois que plus qu'hier, aujourd'hui plus qu'hier, il faudra que nous puissions nous sensibiliser pour nous mettre ensemble, pour que nous sachions que nous n'avons qu'un seul espace vital et qu'en l'absence de cet espace vital, nous perdons non seulement notre nationalité, nous perdons notre avenir.
Emmanuel Kabongo, dans votre première intervention, lorsque vous parliez des enjeux cachés de la guerre de l'Est, vous avez cité notamment l'émergence des nouvelles puissances telles que le Rwanda, l'Ouganda au niveau de la sous-région. En quelque sorte, Emmanuel Kabongo, ces nouvelles puissances, en affaiblissant les autres pays de la sous-région, ne s'affaiblissent-elles pas elles-mêmes également?
Ah oui, vous avez là une pensée logique, mais en politique, la logique là n'existe pas. En politique, ces pays-là se disent, Museveni, Kagame se disent, voilà, nous devons affaiblir la RDC pour s'asseoir sur les richesses de la RDC, s'asseoir sur les eaux de la RDC, sur les pétroles de la RDC, afin de faire notre développement. Et ils nous rappellent que, voilà, pendant une vingtaine d'années, Mobutu a joué le même rôle. Mobutu a été le superpuissant d'Afrique et que si hier, pour mettre un président au Rwanda ou pour mettre un président en Ouganda, il fallait avoir l'avis de Mobutu, aujourd'hui, il faut, pour avoir un président au Congo, pour avoir un ministre au Congo, avoir l'avis de ces pays-là aussi. Donc, je comprends qu'il y a cette logique, la logique de la puissance régionale ne répond pas à la logique, n'est-ce pas, de la philosophie pure. Merci. C'est une logique de la violence. Et comme tel, ces pays-là ne passent pas s'affaiblir. Et c'est ce que nous disons tous les jours. Nous disons qu'il est c'est une erreur fondamentale que certains pays africains, instrumentalisés par les États-Unis d'Amérique, comme le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola et les autres, et même l'Afrique du Sud comme État, puissent penser que leur hégémonie africaine est basée nécessairement sur l'affaiblissement fondamental, n'est-ce pas, du
Merci.
Congo. Comme ils le font aujourd'hui.
Merci.
Donc on affaiblit les Congos, on nous incapacite à profiter de nos richesses pour avoir des bons programmes scolaires, on nous incapacite à entrer dans en possession
merci
de nos richesses pour avoir, n'est-ce pas, des budgets qui nous viennent
en plus. Merci Emmanuel Kabongo. Professeur Bob Kabamba, il y a cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu pour vous.
Cherchez moi Pendano depuis Beni au Nord Kivu. De notre avis, nous ne sommes du tout pas contre ces appels diplomatiques, quoique tardifs, après des graves violations des droits de l'homme par ces mouvements rebelles du M23 au Nord Kivu. Néanmoins, nous pensons que le peuple congolais, longtemps meurtri, n'a plus besoin de ces cadres théoriques des dialogues et des coopérations régionales, même si elles sont reconnues pacifiques, mais souvent multipliées depuis les dossiers FLR, vous le savez, jusqu'à présent, M23, sans aucune solution concrète.
Professeur Bob Kabamba, vous avez cité plusieurs accords que la RDC a ratifiés au niveau de la sous-région, de la région même. Dans quel cas, comme dit cet auditeur, dans quel cas la participation de la RDC à tous ces forums peut-elle s'avérer utile dans cette situation?
Mais je dois vous dire que c'est dans tous les cas, en fait, hein, dans tous les cas que ça peut être utile. Et puis j'ai quand même oublié quand même une dimension hyper importante, c'est qu'au niveau provincial, avec la conférence de Goma, on avait mis aussi en place des outils de gestion de ces différents conflits au niveau de Starek. Starek, donc, c'est le programme de stabilisation de l'Est de la RDC. Et donc tous ces outils-là existent, en fait. Mais le Congo ne les utilise pas. Alors comme le Congo ne les utilise pas, on a les conséquences que l'on a actuellement. Mais je voudrais quand même aussi revenir sur le collègue qui a parlé tout à l'heure qu'il s'agit que de décisions protocolaires. Mais non, il ne s'agit pas de décisions protocolaires. Quand on signe des accords, c'est pour les appliquer et pour pouvoir les respecter. Ça n'a rien à voir avec le niveau protocolaire. Ce sont des décisions, ce sont des engagements que les États prennent et s'engagent. Autre chose aussi que je voudrais souligner pour prouver, pour un peu amener aussi toutes une série d'autres éléments. Tout à l'heure, lorsque vous avez fait part toute une série de défections qui ont eu lieu dans le cadre des FRDC, de manière très claire, tous ces officiers que l'on a pu citer, une bonne partie de ces officiers, ce sont des officiers qui sont des anciens du CNDP. Donc, on est en train d'assister à une, même si le M23 va se donner une image de M23, donc une image, entre guillemets, autre que CNDP, mais de manière très claire, il s'agit des anciens CNDP qui sont en train de se regrouper et de refaire leur mouvement et à nouveau de revenir. Je dois vous rappeler aussi, si vous vous souvenez, on a déjà eu encore ce débat, malheureusement, ce qu'il y a aussi au niveau congolais, lorsque l'on a des mouvements rebelles qui se mettent, qui arrive comme le M23, ce qui va arriver, c'est que comme la RDC ne sera pas en mesure de pouvoir régler cette situation militairement, on a pensé que ça devait être réglé en quelques semaines, ce n'est pas le cas, et donc on va à nouveau revenir dans le cadre des négociations, et revenir dans le cadre des négociations, ça veut dire grosso modo, on promet quelque chose, c'est-à-dire quoi? L'impunité par rapport à tous ces gens qui ont commis des actes, il y a plusieurs milliers, centaines de milliers de Congolais qui sont maintenant réfugiés, d'autres qui sont violés, d'autres qu'on a spolié leurs biens, etc., qui sont au Rwanda, qui sont en Ouganda, qui sont déplacés internes. Donc, en revenant encore aux négociations, on va avoir une espèce d'impunité en disant que lorsque vous commettez des crimes, vous avez une certaine impunité. Deuxième chose, élément aussi, c'est qu'on risque de revenir sur les accords de commun, c'est-à-dire, grosso modo, que l'on va essayer de gratifier à nouveau ce genre d'individus avec des postes au niveau de l'armée, avec des postes à toute une série de choses. Alors, qu'est-ce que ça amène comme message? C'est-à-dire que si vous voulez du pouvoir au nord ou au sud qui vous, faites une milice, occupez un terrain, et à ce moment-là, vous demandez à l'État central du Congo de venir négocier avec vous, et à ce moment-là, vous êtes sûr d'avoir un poste, vous êtes sûr d'avoir un titre de colonel, etc., etc. Malheureusement, c'est ça qu'il y a. La réforme de l'armée, je m'excuse, la réforme de l'armée, c'est depuis 2003, dans les accords de San City, que c'est clairement identifié qu'il faut la réforme de l'armée. 2003, nous sommes en 2012, ça fait 9 ans pour réformer une armée. Si on avait commencé depuis ce moment-là, le Congo aurait déjà une armée capable et digne de ce nom. Et ce n'est que maintenant, progressivement, quand je lis les rapports des ONG, qui commencent à dire que même dans ce qui se passe au Nord Kivu, ce n'est que maintenant qu'on commence à avoir des rapports positifs, c'est-à-dire que l'armée commence progressivement à se comporter comme une véritable armée républicaine.
Merci.
Donc, ne faut pas penser, dire que la réforme, ce n'est que maintenant. Donc, c'est une réforme qui a été commencée depuis bien avant et qui a tardé à porter ses fruits. Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et malheureusement, c'est des centaines de milliers déplacés et des réfugiés que l'on va dénombrer.
Merci, professeur. Juste rappeler qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Mikhaël Maloji, la condamnation seule ne suffit pas. L'Union européenne et l'Union africaine feront œuvre utile de soutenir militairement l'armée régulière de la RDC pour bouter dehors les inciviques et autres bandits. Galvani Chiouk de Mbujimayi au Kasaï oriental. J'apprécie la réaction des deux institutions, mais le Congo n'a pas besoin de condamnation des rébellions, mais plutôt la solution, car nous en avons marre de toutes les diplomaties. Mubanga Wakumi Kalu du Kasaï oriental, je pense que c'est une condamnation de plus pour le compte de la RDC, ceci est pour ma part un signal fort de la communauté internationale qui avalise toute réplique militaire congolaise comme étant légitime. Si la RDC ne montre pas sa force dissuasive maintenant, ce sont ceux qui condamnent aujourd'hui qui créeront une zone tampon au début de la partition du pays. Il y a également Patrick Paluku de Goma en Nord Kivu, c'est bien de condamner, mais quel appui précis va apporter l'Union européenne à la RDC pour faire taire le M23 et alliés, car les 2% attribués à l'armée par le budget Matata Ponyo ne donnent pas une lueur d'espoir aux Congolais de l'Est. Joseph Kongolo, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que vous avez à dire en ces termes?
D'abord, il faut dire que les guerres successives de l'Est sont des querelles, ce sont des guerres qui sont mal éteintes. C'est-à-dire que toutes les négociations qu'on a toujours faites, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces guerres, ont été mal faites. C'est comme ça que nous disons, n'est-ce pas, que les réconciliations mal faites sont 10 fois plus à craindre, parce qu'elles reviennent toujours. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut casser les cercles vicieux.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, nous n'avons pas d'argent pour organiser une défense. Entre-temps, nous ne pouvons pas bouter l'ennemi dehors parce que la défense n'est pas organisée. Le professeur vient de dire tout à l'heure qu'il y a des accords. Ce sont les rebelles qui, à la suite des négociations, qui reviennent dans le gouvernement, qui reviennent dans l'armée, et puis qui repartent. Donc, moi je crois, très franchement, que nous sommes dans un cercle vicieux qui se renforce les uns les autres. Et nous risquons de nous perdre des plumes là-dedans et de perdre l'essentiel de l'énergie que nous avons encore. C'est pourquoi je dis, tout simplement, qu'il faut briser ces cercles-là. En faisant quoi? D'abord, premièrement, il faut mettre sur pied une cellule qui a pour objet de créer une forme de riposte à tout acte d'agression et d'arbitraire, n'est-ce pas, et d'arbitraire international. Parce qu'il faut dire une chose, il faut d'abord qu'on arrive à globaliser la résistance, qu'on dépasse le niveau institutionnel formel pour attaquer toute la population et l'incorporer dans les efforts pour trouver des solutions.
Merci. Docteur Emmanuel Kabongo, quelles sont les portes de sortie dans cette situation, en guise de conclusion?
Oui, je voudrais seulement dire que le Congolais doit savoir que la souveraineté d'un peuple signifie que ce peuple est propriétaire d'un territoire et que sur ce territoire, il a les droits de choisir, il a les droits souverains de choisir les dirigeants de cet espace-là parce qu'il est propriétaire de cet espace-là. Donc aujourd'hui, plus qu'hier, le Congolais, le mouvement civique congolais doit pouvoir informer la population que plus que l'État, parce que l'État, d'ailleurs, c'est la volonté commune, les populations sont responsables, n'est-ce pas, de leurs terres, sont responsables de leurs espaces, et qu'ils doivent, pour ça, n'est-ce pas, en avoir conscience et se mettre à les défendre. À mon avis, c'est cela.
Merci beaucoup, Dr. Emmanuel Kabongo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Professeur Bob Kabamba, votre conclusion.
Conclusion, malheureusement, elle ne peut pas être très positive par rapport à l'évolution de la situation sur le terrain. Déplorer vraiment amèrement le fait que la population civile qui va être encore une fois victime de ces différents mouvements et surtout espérer peut-être que la RDC va pouvoir avoir les moyens de pouvoir mettre hors d'état de nuire ce genre de choses et de ne pas retomber dans des négociations qui vont promouvoir l'impunité et continuer à faire souffrir les populations congolaises.
Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, Kéline Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Pélé Kipelamondo, à la technique Paul Badianyama et Patrick Kiasongwa, coordination et présentation Alain Roumouchige. Et vous nous avez suivis. Merci de votre attention. Au revoir.